VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 24 octobre 2018. Aux États-Unis, Barack Obama, Hillary Clinton et d'autres membres du Parti démocrate visés par des colis suspects ainsi que la chaîne CNN. Et le président américain qui s'exprime juste en ce moment vient tout juste de dire que la violence politique n'avait pas sa place aux États-Unis. 30 blessés à la baie en Guinée lors de heurts entre les forces de l'ordre et des militants de l'opposition. Le gouvernement burundais n'a pas fait le déplacement à Arusha et demande le report des discussions. L'ONU accuse l'armée et les rebelles au Soudan du Sud d'enlèvement et de viol. Et l'Assemblée nationale algérienne a élu son nouveau président. Mais le sortant Saïd Bouaïcha refuse de partir. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Actualité oblige. Ici, aux États-Unis, une série de colis suspects potentiellement explosifs ont été envoyés à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN. L'ancien président Barack Obama et l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton ont été visés. La Maison-Blanche a rapidement dénoncé ces actes qualifiés d'ignobles. Juste en ce moment, le président américain Donald Trump est en train de s'exprimer sur cette question. Les dernières nouvelles avec Eric Manirakitsa.
Ces colis potentiellement explosifs visaient l'ancien président Barack Obama, l'ex-secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton, l'élu au Congrès américain et ex-présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz, Eric Holder, ex-ministre de la Justice sous l'administration Obama, John Bremen, ex-directeur de la CIA sous Obama et le siège de la chaîne d'information CNN. Deux jours auparavant, une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été mise en danger. Personne n'a encore revendiqué. Ces actes terrifiants sont ignobles. Les représentants devront répondre de leurs actes devant la justice, a indiqué Sarah Sanders, porte-parole du président Donald Trump. Le chef républicain du Sénat américain a dénoncé des actes de terrorisme intérieur. Mitch McConnell a remercié les forces de l'ordre et les services postaux qui protègent les dirigeants et personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. Ces informations sur des colis suspects en série surviennent alors que les États-Unis sont en pleine campagne pour les élections du 6 novembre. Les démocrates espèrent reprendre le contrôle du Congrès américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, au moins 30 personnes ont été blessées à la baie lors de heurts entre les forces de l'ordre et des militants de l'opposition qui protestaient contre le tir ayant touché hier le véhicule de Selou Dalein Diallo. Monsieur Diallo affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat par la police alors qu'il se rendait à une manifestation interdite par le pouvoir. En fin de matinée, les jeunes ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur plusieurs artères de la baie, obligeant les commerçants à fermer. Un déploiement massif des forces de l'ordre L'ordre a permis de ramener le calme au centre-ville. Des heurts ont éclaté également à Dalaba, autre ville dans le centre du pays, où des barricades ont été dressées. Au Burkina Faso, un couvre-feu a été décrété à Djibo après une attaque contre la gendarmerie du chef-lieu de la province de Soum, a annoncé le haut-commissaire Siaka Baro. Il a été instauré à partir du 23 octobre jusqu'à nouvel ordre dans le ressort territorial du département de Djibo. Le 18 octobre, des individus armés avaient attaqué la brigade territoriale de gendarmerie, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants avaient également libérer des dizaines de prisonniers. La chaîne française Canal+ a été condamnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour un éloge appuyé de la politique économique du Togo dans une vidéo et devra faire lire un message à l'antenne en faisant état. Aucune information sur l'origine de ces images n'a été fournie aux téléspectateurs, relève le CSA, rappelant à Canal+ l'exigence d'honnêteté qui s'applique à l'ensemble de ses programmes. L'offre ayant permis à Suez de remporter le contrat de distribution de l'eau au Sénégal est, selon les autorités, plus avantageuse que celle de ses deux concurrents, dont la Sénégalaise des eaux, qui a annoncé ce mercredi son intention d'introduire un recours. Le groupe français a gagné le contrat pour fournir pendant 15 ans de l'eau au Sénégal aux dépens de l'ASDE, opérateur depuis 1996, et de Veolia CGE. Le gouvernement burundais n'a pas fait le déplacement à Arusha en Tanzanie, où devaient débuter aujourd'hui des discussions pour sortir le pays de la crise. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
À Arusha, les pourparlers dits de la dernière chance n'auront pas lieu. Ces discussions avaient pour objectif l'organisation d'élections inclusives en 2020 au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a déjà affirmé qu'il ne serait pas candidat. C'est sur son compte Twitter que le gouvernement burundais a annoncé sa non-participation à ces discussions, demandant le report de cette cinquième session. Le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiye, a indiqué à VOA Afrique que Bujumbura a demandé des précisions sur les personnes qui prendront part à cette session, qui devait être celle de la signature de la feuille de route. Il a précisé que les autorités burundaises attendent la réponse du facilitateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien. Seule une vingtaine de leaders de l'opposition et de la société civile sont présents à Arusha, dont Anice Niyongabo, secrétaire général du CNARED. Pour lui, cette absence démontre que le pouvoir burundais n'a jamais voulu négocier pour sortir le Burundi de la crise.
S'appuyant sur une enquête menée cette année, les Nations Unies accusent l'armée et les rebelles au Soudan du Sud d'enlèvement et de viol de centaines de femmes et de filles. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un rapport de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, révèle que plusieurs abus ont été commis sur des enfants et des femmes. Le document renvoie dos à dos l'armée régulière et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar. Selon les Nations Unies, ces abus pourraient tomber dans la catégorie des crimes de guerre. Des filles âgées de 12 ans seulement sont choisies comme épouses pour les militaires. Elles doivent défiler devant eux et les soldats choisissent. Elles sont évidemment violées et soumises à l'esclavage sexuel, peut-on lire dans le document. L'armée gouvernementale a catégoriquement rejeté ces accusations. Un porte-parole de la rébellion a de son côté promis d'enquêter. Le rapport s'appuie sur une enquête menée entre avril et août dernier dans le sud-ouest du pays, en proie à la guerre civile depuis 2013. Le mois dernier, une cour martiale avait lourdement condamné 10 soldats reconnus coupables des viols de 5 travailleuses humanitaires.
L'Assemblée nationale algérienne a élu son nouveau président alors que le sortant se proclame légalement toujours en fonction. Le point avec Eki Abadou.
Mohamed Bouchareb, 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale avec 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, parti du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui détient 161 des 462 sièges à la Chambre basse. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement National Démocratique, du Premier ministre et par ceux de deux autres partis de la majorité présidentielle. De son côté, l'opposition a boycotté la séance. Le président sortant, Saïd Bouadja, 80 ans, lui-même membre du FLN a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée et a dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Il est accusé de mauvaise gestion. 5 partis de la majorité, dont le FLN et le RND, réclament en vain depuis fin septembre sa démission. L'opposition, quant à elle, a dénoncé une lutte politique entre clans du pouvoir et une atteinte aux institutions.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a qualifié d'incident hideux le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat en Turquie, affirmant que Riyad coopérait avec Ankara et que la justice prévaudra. Estimant qu'il n'y aurait pas de rupture avec la Turquie, Salman a ajouté que les criminels devront être amenés devant la justice dans ses premières déclarations publiques depuis la disparition du journaliste saoudien. Plutôt, Ankara avait indiqué que le président Recep Tayyip Erdogan et Mohamed Ben Salman avaient discuté des efforts communs à mettre en œuvre pour élucider ce meurtre. un retrait américain des traités de désarmement comme celui sur les armes nucléaires de portée intermédiaire mènera la course aux armements et à une situation extrêmement dangereuse, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Si tous ces accords sont démantelés, alors il ne restera rien en matière de restriction des armements. Il ne restera rien à part la course aux armements, a souligné M. Poutine lors d'une conférence de presse. Et la police israélienne a délogé un sit-in de moines chrétiens coptes qui protestaient sur le parvis du Saint-Sépulcre à Jérusalem contre des travaux dans un monastère dont ils revendiquent la propriété. Des moines ont été légèrement blessés et l'un d'eux arrêté puis libéré grâce à l'entremise de l'ambassade égyptienne, a déclaré Marcos Al-Orchelemi, porte-parole de l'église copte de Jérusalem. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Sénégal reçoit des Nations Unies 574 millions de dollars dans le cadre de l'accord du plan cadre pour l'assistance au développement. Dakar va investir dans plusieurs secteurs, la création d'opportunités pour la croissance inclusive et durable, l'amélioration de l'accès des populations les plus vulnérables aux services sociaux de qualité, le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d'un état de droit. Le gouvernement sud-africain va octroyer à la compagnie aérienne South African Airways près de 350 millions de dollars pour éponger une partie des dettes de la société. Le Trésor sud-africain a révélé que l'entreprise devait rembourser 986 millions de dollars d'ici mars prochain. Ce fardeau empêche de plus en plus le transporteur aérien de poursuivre ses activités. Les fonds destinés au nouveau financement proviendront d'une réserve pour les éventualités et de fonds non dépensés issus d'autres ministères du gouvernement. Ici aux États-Unis, le jackpot record de la loterie américaine Mega Millions est d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. C'est le plus gros pactole jamais gagné dans le monde. Le ticket gagnant de ce mardi a été vendu en Caroline du Sud. L'heureux gagnant peut recevoir un versement sur 29 ans ou toucher immédiatement une somme de 913 millions de dollars. 36 tickets auront également droit au second prix d'un million de dollars chacun et près de 16 millions de tickets ont gagné au moins quelques dollars.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par les demi-finales retour de la Coupe CAF. Elle se joue ce soir.
Oui Nathalie, l'AS Vita Club a su classer les Égyptiens d'Al Masry 4-0 au stade des Martyrs. Eddy Emomongoyi a ouvert le score dès la 6e minute de jeu avant de revenir à la charge à la 39e pour son doublé. En seconde période, Jean-Marc Makoussou Moudélé a corsé l'addition à la 75e avant que Moukoko Batezadio n'achève le festival but dans les arrêt de jeu. L'AS Vita Club est donc le premier club qualifié pour la finale de la Coupe CAF. Dans l'autre demi-finale de la soirée, tout à l'heure, battu à l'aller au Nigeria sur le score d'un but à zéro, Enimba fera face au Raja Casablanca au complexe Mohamed V dans l'espoir de valider son ticket pour la finale. Coup d'envoi 19h, temps universel.
Et des violences à déplorer hier en Tunisie.
Au moins 38 policiers ont été blessés dans des heurts avec des supporters lors du match de qualification pour la finale de la Ligue d'Afrique des Champions entre l'Espérance Tunis et Primero Agosto, disputé à Tunis selon le ministère de l'Intérieur. Battu 1-0 en Angola à l'aller, l'Espérance a renversé Primero Agosto à domicile 4-2 à Rades.
Un mot sur la Ligue des Champions en Europe.
Les Belges du FC Bruges reçoivent l'AS Monaco du nouveau coach Thierry Henry. Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier joue le PSV. Au Camp Nou, le Barça fera sans son maître à jouer Lionel Messi. Dortmund reçoit l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais sans le Guinéen Naby Keïta blessé, affronte l'étoile rouge de Belgrade à Anfield. Le choc de la soirée, c'est sans doute le match du Parc des Princes entre le PSG et Naples, avec les retrouvailles entre Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du PSG d'une part, et Edinson Cavani, Cavani, l'attaquant parisien en panne de but, qui fera lui aussi face à ses anciens coéquipiers italiens. À suivre aussi Lokomotiv Moscou, FC Porto.
Et on termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Blake Griffin, auteur de 50 points, a permis aux Detroit Pistons, vainqueurs des Philadelphia Sixers sur le fil 133-132 après prolongation, de rester invaincu depuis le début de la saison malgré les 33 points du Camerounais Joel Embiid. Dans les deux autres matchs de la soirée, la Nouvelle-Orléans et Denver sont restés invaincus comme Detroit.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République du Congo, les populations rescapées de la guerre du Poule tentent de se donner un nouveau destin. C'est dans une savane à perte de vue où poussent de gros arbustes que les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont choisi d'ouvrir avec des outils aratoires 7 km de route dans un sol sablonneux. Grâce aux vivres du PAM financés par le gouvernement américain, ces personnes espèrent rendre leur bassin de production rapidement accessible au marché local. Voici un reportage de notre correspondant Arsène Séverin qui s'est rendu sur les lieux en question.
Ce bruit de scie à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Et les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour, par personne dans leur ménage, pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez maintenant, ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyens de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment à plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer les véhicules commerciaux pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Produire les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, à des gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement, parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte Amokongoto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est 1 heure que tu es à Missié-Missié. Donc on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le pool.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet parce que les membres de la communauté, les jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de la nourriture, mais aussi ils ont l'opportunité de faire des choses qui sont bonnes pour la communauté. Donc c'est un projet que tout le monde gagne, c'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis peuvent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour le faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le pool à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur la réélection du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, il a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec plus de 71% des suffrages. Et des résultats contestés par plusieurs partis d'opposition qui ont dénoncé des fraudes, mais ont vu leur recours rejeté par le Conseil constitutionnel.
Cette présidentielle a toutefois suscité un intérêt sans précédent auprès d'une grande partie de la population. Au sortir de ces élections, et qu'attendre de ce mandat alors que le président Biya a déjà passé plusieurs décennies au pouvoir ? Morgane Guerrier en votre compagnie, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel.
Comment attirer les investisseurs en Afrique? Une question que de nombreuses entreprises et start-up se posent sur le continent dans l'espoir de faire de bonnes affaires. C'est d'ailleurs pour répondre à cette interrogation qu'une jeune entrepreneure mauritanienne a décidé de créer Hop Africa, une plateforme d'affaires très active dans son pays. John Lyndon, notre envoyé spécial à Nouakchott, a pris part à l'une de ses rencontres. Voici son reportage.
Dans un hôtel de la capitale mauritanienne, un groupe d'hommes et de femmes d'affaires sont réunis pour parler d'opportunités d'investissement. À l'initiative de cette rencontre business to business, Hop Africa, une plateforme créée par cette femme, Maro Adia Diagana.
Hop Africa, c'est quoi? C'est une plateforme panafricaine de mise en relation d'affaires et de partenariat. Nos objectifs tournent autour de l'organisation des manifestations économiques à échelle nationale et internationale, l'organisation aussi des missions d'affaires.
Ce soir-là, c'est une délégation d'opérateurs économiques français qui est à l'honneur. Laurent-Pierre Castagnera, qui dirige une entreprise d'import-export et commercialise des produits européens sur le continent, justifie sa présence ici.
Après certaines expériences au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Gabon, j'avais envie de découvrir le marché mauritanien, qui est un marché qui, ces dernières années, semble être un marché qui se dynamise, qui évolue, et il faut être présent. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec le club que je représente ce soir, qui est le club le CBSOA, le club des entreprises Bordeaux-Afrique, nous avons souhaité en fait monter une mission pour rencontrer les entreprises mauritaniennes et trouver de nouveaux partenaires afin de développer nos business respectifs.
Et pour faciliter encore plus les relations d'affaires et de partenariat entre investisseurs étrangers et africains, la jeune entreprise mauritanienne nourrit des ambitions continentales.
On veut voir grandir ou naître dans chaque pays africain, que ce soit des pays francophones, anglophones ou lusophones, une filiale de Hop Africa ou une représentation d'Hop Africa qui permettra à ces entreprises de ces pays-là de venir adhérer à la plateforme et surtout de voir dans quelle mesure ils pourront tisser des partenariats avec d'autres entreprises de la plateforme.
Pour la promotrice de Hop Africa, mettre ensemble les entreprises africaines sur une même plateforme permettra également à celle-ci d'avoir plus d'informations, plus de visibilité et des partenaires indispensables à leur développement. John Lyndon, VOA Afrique, Nouakchott.
Cap sur l'Ouganda à présent pour aller à la rencontre de Joanne Naloubega. Elle a grandi dans un orphelinat et souffrait régulièrement de paludisme, ce qui l'a justement motivée à créer une gamme de savons pour aider à lutter contre la maladie transmise par les moustiques. Son savon, elle le vend à prix majoré dans des hôtels haut de gamme pour pouvoir subventionner le produit pour ceux de sa communauté locale qui en ont le plus besoin. Blanche Sanou nous en dit davantage.
À Pigi, dans un district du centre de l'Ouganda, John se rend dans son atelier. Elle y prépare les ingrédients nécessaires pour la fabrication de ses savons. John Naloubega, la fondatrice de Ouganic, nous donne plus de détails.
Nous mélangeons de l'huile d'olive, de l'huile de coco et puis d'autres huiles. Et enfin, on ajoute l'élément répulsif. Nous utilisons aussi de la citronnelle, de la lavande dans la composition du savon.
L'entreprise Ouganic a lancé ses activités grâce au soutien de l'Académie Social Innovation, une organisation basée à Pigi qui éduque les orphelins, les enfants des rues, les réfugiés et autres jeunes défavorisés. En plus de cela, John a su profiter de sa proximité avec la communauté locale pour connaître leurs besoins réels dans la lutte contre le paludisme. John Naloubega, fondatrice de Ouganic.
J'ai constaté qu'il y avait des solutions sur le marché, comme les aérosols et tout le reste, mais elles étaient plus destinées aux touristes. Pourtant, les gens qui en ont le plus besoin ne sont pas pris en compte. Alors je me suis dit que c'est dans cette direction qu'il fallait aller. Nous recherchions un produit auquel ils peuvent facilement accéder et un produit que chaque ménage pouvait utiliser. C'est pourquoi nous avons fabriqué un savon.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde. Le paludisme représente également 40% des visites dans les centres de consultation externes, dans les établissements de santé publique. Pour les habitants de Pigi, l'utilisation du savon de Ouganik est un vrai soulagement, comme le témoigne Teddy Namirembe.
Avant de commencer à utiliser ce savon, mes enfants étaient atteints de paludisme. Le matin, ils avaient plusieurs marques de morsures causées par des piqûres de moustiques. Mais maintenant, ils ne sont plus mordus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me fatigue plus pour acheter des médicaments. Ce savon m'a beaucoup aidé.
John a reçu l'an dernier 5 000 $ du programme d'entrepreneuriat Tolu et Lumelu. Cette année, elle est candidate au prix Anzisha, un prix décerné aux jeunes entrepreneurs africains. Son objectif, réduire de 20% le taux du paludisme en Ouganda au cours des 5 prochaines années.
On revient sur l'affaire Khashoggi. En effet, malgré la reconnaissance par l'Arabie saoudite de la mort du journaliste saoudien dans les locaux de son consulat à Istanbul et l'arrestation de 18 personnes, l'affaire est loin de connaître son épilogue. Aujourd'hui, Ankara a demandé à ce que les personnes incriminées soient jugées en Turquie. Pour comprendre le rôle de la Turquie dans l'internationalisation de cette affaire, Abdourahman Dia a joint à Paris le professeur turc Ahmed İnsel.
La Turquie aurait pu être très très intransigeante dès le départ. Et je crois que Tayyip Erdogan a voulu à la fois ne pas du tout couvrir cette affaire, mais en même temps laisser une marge de négociation avec l'Arabie saoudite. Du coup, il joue la carte d'une révélation goutte par goutte, compte à compte, de ce que dispose la police turque comme information.
La Turquie veut quand même que les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête soient jugées en Turquie. Vous pensez que Riyad va l'accepter?
Non, pas du tout. Je crois que c'est un vœu pieux. D'ailleurs, je suis sûr que si jamais Riyad décidait d'envoyer les personnes incriminées, la Turquie aurait été encore plus gênée. Là, c'est une demande qui est faite par pure forme, tout en sachant que ça ne va pas aboutir.
Quels sont les moyens de pression dont dispose Ankara? Après tout, l'Arabie saoudite est très puissante dans le monde musulman et également sur le plan financier.
La Turquie, aujourd'hui, joue sur la crédibilité de l'Arabie saoudite. D'ailleurs, cette stratégie de la Turquie a poussé l'Arabie saoudite à reconnaître les faits, puisque, rappelez-vous, les premiers jours, l'Arabie saoudite avait totalement nié et avait même annoncé que Adnan Khashoggi était sorti libre du bâtiment. Mais la Turquie a poussé, en révélant progressivement des faits, a poussé les pays occidentaux à prendre une position beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'Arabie saoudite.
Et justement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé du retrait de visa des personnes incriminées. Quel impact cette mesure de retrait des visas peut avoir face aux intérêts financiers?
Aucun. Le retrait de visa n'a aucun impact puisque nous savons que maintenant ces 18 personnes ne quitteront jamais l'Arabie saoudite parce qu'ils risquent d'être arrêtés n'importe où. Mais par contre, par exemple, le retrait des participations au forum organisé à l'Arabie saoudite a eu des impacts, manifestement. La décision allemande de refuser les livraisons d'armes à l'Arabie saoudite probablement va créer une pression d'opinion publique qui fait que les livraisons d'armes vers l'Arabie saoudite vont être plus difficiles. Et je crois que tous les pays en question dans les pays occidentaux réfléchirons encore plus aujourd'hui.
C'était Ahmed Insel, ancien professeur de l'université de Galatasaray en Turquie. Et voilà pour le journal. À la console, c'était Georges Léonard Sagnou, à la production Nathalie Barge, à la présentation. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.